Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il est une croyance connue, admise d'une manière sûre par un grand nombre de personnes. Je veux parler de l'immortalité de l'âme. Certains pensent qu'ils resteront éternellement aux pieds de Dieu, comme un chien fidèle auprès de son maître, alors que le but de la vie humaine, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, reste malheureusement inconnue pour beaucoup. Pourquoi une telle ignorance? Parce que l'homme se soucie peu de connaître la raison pour laquelle il a été mis sur terre. Il ne s'inquiète nullement de ce que sera son ultime destinée, et il ne cherche pas à savoir pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre, ni pourquoi il demeure incapable de résoudre ses problèmes et ceux qui foisonnent dans le monde. D'où vient cette croyance qui prétend que l'homme possède en lui une âme immortelle et qu'il vivra après sa mort physique dans la contemplation éternelle de Dieu? La source de cette croyance, nous la trouvons au jardin d'Éden, lorsque Satan déclara à Ève « Vous ne mourrez point », alors que Dieu l'avait mise en garde contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, disant « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». L'homme ne veut pas admettre qu'il n'est qu'un être mortel. Il préfère s'accrocher au mensonge de Satan, auteur de la doctrine de l'âme immortelle. Beaucoup sont convaincus qu'ils iront près du Seigneur au moment de leur mort, ou au purgatoire, ou en enfer, s'ils ont été méchants, pour y brûler éternellement, ce qui n'est guère réjouissant. Si vous êtes un lecteur attentif de la Bible, vous devez savoir que l'expression « âme immortelle » n'y figure nulle part. Beaucoup de personnes ont succombé à la torture parce qu'on les rendait coupables d'hérésie. Leurs tortionnaires prétendaient que si elles reniaient leur fausse croyance à la dernière minute, leur corps serait détruit, mais leur âme serait sauvée. Le Grand Larousse encyclopédique écrit ce qui suit sur le mot « âme ». Je cite « La notion d'âme prend sa source dans l'animisme. Dès les plus anciennes civilisations, par exemple en Égypte, apparaît la croyance à une force régissante à la fois la vie et la pensée, sous forme d'un double occulte, d'essence plus ou moins subtile, qui habite le corps et s'en échappe au moment de la mort. La plupart des rites funéraires illustrent cette croyance que l'on retrouve en Grèce, chez Platon et les stoïciens, théorie du pneuma. Enfin, l'accent est mis sur l'âme principe de pensée, considérée comme immatérielle, différente par essence du corps, spirituel et immortel. C'est le spiritualisme, doctrine de Platon dans le Phédon, doctrine reprise par la religion chrétienne, par exemple par saint Thomas d'Aquin. Fin de citation. Comme vous le constatez, l'immortalité de l'âme prend sa source dans l'animisme. Il n'y a donc rien de biblique dans la théorie païenne de l'âme immortelle qui fut cependant adoptée par Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. À la rubrique « Animisme », le Grand Larousse encyclopédique écrit « L'animisme remonte aux origines de l'humanité. Cet animisme primitif aboutit à la sorcellerie, à la magie, aux superstitions, aux tabous, etc. » Fin de citation. Le concept de l'âme immortelle se retrouve sous une forme ou sous une autre dans presque toutes les religions, et cette idée retenait déjà l'attention des Égyptiens. Les nombreuses tombes découvertes dans la vallée du Nil sont un témoignage éloquent de la croyance en une vie spirituelle au-delà de la vie physique. Avant les Égyptiens, les Babyloniens croyaient déjà à une vie future dans un monde souterrain. Les philosophes grecs, Socrate et Pythagore, adoptèrent cette croyance répandue en Égypte. Ils eurent une grande influence sur Platon, qui popularisa la doctrine de l'âme immortelle dans le monde grec. Si vous lisez les nombreuses explications destinées à vous convaincre que l'âme est immortelle, vous constaterez qu'elles diffèrent toutes, et aucune d'elles ne se base sur la parole de Dieu et pour cause, puisque la Bible ne fait aucune mention à une soi-disant âme immortelle. Cependant, la Bible n'est-elle pas la source de toute la vérité et le recueil des textes inspirés? La parole de Dieu affirme qu'Adam devint un être vivant, qu'il était une âme vivante. Il ne possédait pas une âme vivante. L'âme est l'homme, et non quelque chose que l'homme possède. le livre de la Genèse déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » L'apôtre Paul confirme « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Ce souffle de vie se trouve en l'homme, mais aussi en tous les animaux vivants, et tous sont des nephesh vivants. Et lorsqu'ils meurent, tous deviennent des êtres morts, des nephesh ou âmes mortes. Selon les textes bibliques, un animal est une âme, tout comme l'homme. Un peu plus tard, après qu'Adam eut transgressé les ordres divins, Dieu lui dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Dieu s'adressait ici à Adam, un homme conscient, bien vivant, et non à son corps seulement. L'âme est l'être vivant ou l'être mort, et le mot « nefesh » n'a aucun rapport avec quelque essence spirituelle que ce soit. Dans le Nouveau Testament, le mot « âme » est traduit du grec « psouké », qui est l'équivalent de l'hébreu « nefesh ». Et à deux reprises, il est utilisé pour les créatures qui sont dans les mers. Le roi Salomon a écrit « La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Ces paroles ne sont-elles pas étranges? Si l'âme d'une personne morte est déjà près du Seigneur, veillant ou intercédant en faveur des siens, c'est-à-dire des vivants? Dans sa prière, Moïse déclare « Tu réduis le faible mortel en poussière et tu dis « Rentrez dans la terre, fils de l'homme ». Ce passage est tiré de la Bible traduite par le rabbinat français, tandis que la Bible en français courant traduit le texte original comme suit « Tu fais revenir les humains à la poussière, tu leur dis « Retournez d'où vous êtes venus ». Dans ce passage, il n'est pas question d'un corps qui retournerait à la poussière et d'une âme qui, de son côté, prendrait un autre chemin. Chaque fois que l'on cite l'Ancien Testament, beaucoup affirment que cela concerne l'époque précédant la mort du Christ, car depuis lors, les choses auraient changé, paraît-il. L'apôtre Jacques écrit 30 ans après la mort du Christ. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » L'apôtre Jacques s'adresse à l'homme et dit « Vous êtes une vapeur qui ensuite disparaît. » L'apôtre Jacques dirait-il cela si l'homme possédait une âme immortelle? De son côté, l'apôtre Paul écrit « Christ est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. La mort est un état d'inconscience totale. Si les défunts disciples du Christ avaient possédé une âme immortelle, Paul aurait pu écrire qu'ils étaient déjà près du Seigneur. Au contraire, il ajoute « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Autrement dit, si la résurrection des morts n'existe pas, profitons largement de la vie. Cessons de nous soucier du royaume de Dieu à venir puisque tout sera fini lorsque la mort surviendra. Vous vous rendez bien compte que Paul n'aurait jamais écrit cela si l'homme possédait une âme immortelle. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul explique que l'espérance du chrétien est la résurrection d'entre les morts, au moment où le Christ reviendra pour régner sur la terre. Plus tard, il écrira des paroles très importantes. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul nous explique que les morts dorment, totalement inconscients. Ils ne sont pas encore près du Seigneur. Ils ne le seront qu'après son avènement. Mais à ce moment-là, ils seront les premiers à ressusciter. Ensuite, les chrétiens vivants seront transformés et tous ensemble, avec un corps spirituel glorieux, iront à la rencontre du Seigneur. Tous seront dès lors et à toujours avec le Seigneur. Ce n'est qu'à la première résurrection que les morts en Christ recevront un corps spirituel. Paul écrit « Comment les corps ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, l'image d'Adam, le premier homme, nous porterons aussi l'image du céleste, celle du Christ ressuscité. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ?» Comprenez bien ce que Paul écrit. Comment la mort pourrait-elle être victorieuse si l'homme possède une âme immortelle ? La Bible dit bien que la mort sera engloutie, détruite, dans la victoire de ceux qui recevront un corps spirituel, immortel à la résurrection. Voilà l'enseignement biblique. La croyance selon laquelle une âme continue à exister après la dissolution du corps n'est enseignée nulle part dans les Écritures. C'est donc encore une notion tout à fait fausse qui continue d'être enseignée. Le psalmiste écrit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Certains penseront à Enoch et Élie, ou encore au récit de la transfiguration, au cours de laquelle les apôtres Pierre, Jacques et Jean virent Moïse et Élie aux côtés du Christ. Nous tenons à votre disposition une étude complète sur ces sujets. Il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée sans engagement. Comprenez bien que l'homme n'a pas une âme. Il est une âme, tout comme les animaux. Puisque les âmes sont mortelles, tous les hommes sont mortels soumis à la mort. Lorsqu'un animal meurt, il retourne à la poussière, et lorsqu'un homme meurt, il en est de même pour lui. Le roi David, qui se savait entouré d'ennemis, dont l'étreinte se resserrait de plus en plus, s'adressa à l'Éternel par ces mots. « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. » Qui te louera dans le séjour des morts ? David demanda à Dieu de sauver son âme, donc de lui sauver la vie, car il savait qu'une fois mort, il ne pourrait plus se souvenir de Dieu ni le louer.